Ce soir, sur la scène belle du Festival d'été de Québec.
Trouver ma haine et je souhaite qu'elle soit mienne. Je bégaye mes mots, son odeur me fait perdre mes voyelles. Désolé bébé, si des fois je suis dur à suivre. Il y a la police qui nous écoute sur la ligne.
Morée.
Moi, je l'adore.
Live.
Oh. En vacances.
C'est super.
Oh. Radio X.
On le sait, notre sport national, c'est pas le soccer. Il y a un paquet de monde qui nous le disent depuis un bout. On l'a vu également. Quoi qu'on va prendre le temps pour en parler aussi, parce qu'on l'a vécu, notre première Coupe du monde. On a vraiment bien aimé ça. Oui. Mais c'est là, OK, on surveille ce qui se passe avec le Canadien. Ça marche-tu, ça marche pas. Mais c'est surtout regarder les parties à TV. Ça commence à être compliqué. On l'a vu, tout ça commence, je pense, avec la NFL. Quand ils ont commencé à signer des ententes avec Netflix, avec Amazon Prime, avec Peacock, c'est rendu que pour suivre la NFL aux États-Unis, ça nous prend des abonnements à peu près à tout ce qui s'appelle site de streaming. Ouais. Mais là, ça commence à être le cas de plus en plus. Puis au Canada, qu'est-ce que tu veux? On écoute le hockey, on est prêt à payer pour le hockey. Puis il y a les compagnies de streaming, je pense qu'ils sont en train de s'en rendre compte. Il y a de la surenchère beaucoup. Tout ça pour dire qu'actuellement, il y a 39 parties du Canadien. On n'a aucune idée où ce sera diffusé. On en parle avec Luc Dupont qui est avec nous. Comment ça va, Luc?
Ça va très bien, vous?
Très bien, merci. Et ma lecture, es-tu la bonne? Est-ce que les sites de streaming sont en train d'appeler Gary Bettman puis dire « Savez-vous quoi, le marché canadien, nous autres, je pense qu'on aimerait ça bêter là-dessus? »
Je pense que ça va être de plus en plus compliqué pour ceux qui voudraient que ça soit plus simple. Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué d'une part parce que tu me donnais l'exemple de la NFL il y a deux instants. Ils ont annoncé récemment et le contrat roule encore. C'est ça qui est assez unique. Mais il y a une clause très particulière dans le contrat qui fait en sorte que si la NFL a l'impression qu'ils sont pas assez bien payés pour, en fait, donner accès au match, ils ont le droit de casser le contrat. Et récemment, ce qu'ils ont annoncé, c'est que ben, nous, on a signé un contrat avec plusieurs stations récemment, du streaming également. On vient de voir ce que la NBA a réussi à aller chercher. Puis on s'aperçoit qu'on s'est fait fourrer. Là, on parle de milliards. Là. C'est un fourrage un peu habituel. En fait, inhabituel, je dirais. Donc, on s'est fait avoir. Puis là, comme on s'est fait avoir, ben, on a décidé de rouvrir les enchères. Puis au fond, on aura compris que les stations de TV ont deux choix. Ils disent, attends un peu, là, on a un contrat de 10 ans. On ne rouvre pas les enchères. Mais là, évidemment, comme cette clause-là existe dans le contrat, si tu dis que tu ne veux pas rouvrir les enchères, c'est sûr que tu ne présenteras plus jamais de match de la NFL. Puis d'autre part, dans le cas de la NFL, au fond, c'est une clause très étrange. Ça fait en sorte que n'importe quand, durant la durée du contrat, tu peux arriver puis dire, savez-vous quoi, finalement, on n'est pas assez bien payé. Alors, du côté de la NFL, c'est le problème qui se passe actuellement. Tu parlais du soccer que certains disent, on n'aime pas ça. Bon, moi, je prétends toujours ma petite théorie sur le soccer, c'est un jeu de patience. Ça finit 1-0.
Oui, c'est
puis
ça.
On n'est pas patient. Les Nord-Américains, les Québécois, on n'est pas patient. On va au McDo, ça fait 4 minutes que j'attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Sont où mes frites? Alors, il y a ce problème-là. Puis l'autre problème du côté du soccer, il faut reconnaître, c'est criant, et particulièrement cette fois-ci, là, c'est que c'est une pièce de théâtre.
Oui.
Alors, il y a des gars qui sont sur le point de mourir. Si tu regardes attentivement,
absolument.
Ils sont proches de décéder. Puis là, tout à coup, mais sans blague, 30 secondes après, ça court à une vitesse remarquable. Alors ça, c'est sûr que c'est deux irritants. Pour des gens qui ont grandi avec le hockey. Nous, on a grandi 5-4, c'est un bon match. 7-6, ben il n'y avait pas trop de défense, mais on a eu du plaisir. Dans le temps de Gretzky, j'ai souvenir de ça. Avec les Nordiques, j'ai vu des matchs à 10-7. Là, donc, on avait des buts.
Puis pas juste ça, Luc, tu recevais un coup de hockey dans la face, tu perdais 3 dents, le gilet en sang, tu continuais à jouer.
Absolument. J'ai souvenir de Peter Stachny. Je vais prendre mes exemples un petit peu plus vieux dans le temps. Mais j'ai souvenir qu'il se fait casser le nez. Puis en deux périodes, il rentre dans la chambre des joueurs et il dit au gars, remets-moi le nez à bonne place, puis on repart. J'ai vu des... Mais vraiment, là, des joueurs de soccer, de foot, là, se faire frôler. D'ailleurs, il y a eu un incident important durant le dernier match là, avec la Suisse, évidemment, et l'Argentine. Où le gars, quand tu le regardes au super ralenti, c'est un méchant beau plongeon. Là. Mais il s'est fait sortir du match aussi. Là. Alors ça, c'est ça le problème du soccer. Puis on parlait des droits, encore une fois, j'y revenais. Bien, dans le cas du soccer aussi, ils se sont fait avoir. Alors, Fox, qui présente les matchs depuis le début, qui les présente tous, et c'est très bien fait, je dois dire, c'est un travail remarquable, avec deux intervenants, deux ex-joueurs exceptionnels du monde du soccer, dont Thierry Henry. Là. Eux, ils ont généré des codes d'écoute qui sont allés jusqu'à peu près 36 à 46 millions de téléspectateurs. En Amérique du Nord.
Ouais,
fait que ça veut dire... Juste, je vais donner l'exemple du hockey. Là, pour, encore une fois, je comprends, il faut toujours revenir au maudit hockey. C'est le nôtre, c'est notre point de repère, puis ça va, c'est correct. Mais c'est tout le temps celui-là. ESPN aux États-Unis, durant les séries de la Coupe Stanley, tire à 2 millions. Okay, on se comprend, là? Là, je viens de dire 36, c'est le chiffre le plus bas, selon les observateurs pour le soccer, aux États-Unis. Puis 46, c'est le plus haut. 46, ça bat les finales de la NBA. Alors, ce qu'on est obligé de constater, là, c'est que, qu'on aime ça ou pas, le soccer, je vous annonce qu'il s'en vient. Puis il s'en vient gros. Ouais,
puis on le voit aussi avec la popularité de MLS. La MLS, quand même, va chercher des codes d'écoute quand même assez formidables, plus que le hockey, assurément, aux États-Unis.
Alors, ce qui est le fun dans le cas de la MLS, puis c'est un exemple peut-être de ça vers quoi on s'en va, mais en même temps du danger d'aller dans cette direction-là, c'est qu'eux, dans le dernier contrat, souvenez-vous, ils ont dit, nous, on met tous les matchs en streaming sur Apple.
Oui.
Puis en échange, Apple va faire un chèque, de mémoire, c'est 250 millions par année, et on va mettre notre logo sur les chandails de tous les joueurs, c'est comme une espèce d'échange. Très rapidement, Apple s'est aperçu que faire de l'événement sportif, il n'était pas super bon là-dedans, donc ils ont sous-contracté ça avec des gens qui sont habitués de faire du sport, mais surtout récemment, ils ont dit, savez-vous quoi, on ne va pas reconduire l'entente, puis on va même, nous aussi, une clause, puis on a décidé que durant le contrat, on ne va pas se rendre à terme. Puis éventuellement, donc, plus tôt que prévu, on va arrêter ça. Dans ce cas-ci, les observateurs disent qu'avoir fait tout le saut au complet en streaming, c'était peut-être trop rapide. Fait que je reviens, on va faire le lien avec le Canadien.
Oui, ben
je reviens avec le Canadien. Dans le fond, le problème actuellement, c'est que si on est logique, il va y avoir du streaming. OK? Tout le monde, préparez-vous. C'est fini. C'est fini, là, je m'assois à la maison, puis je l'ai sur mon réseau classique.
Là, on est le 13 juillet, puis il y a 39 parties, on ne sait pas où ils vont être diffusés encore.
Oui.
C'est sûr que là-dedans, on peut viser au moins la moitié qui vont être sur des sites de streaming.
Et à l'automne, on nous avait dit, ça s'en vient bientôt, l'annonce du contrat. Bon, c'est ce que j'aime dans bientôt. Bientôt, c'est-tu 3 semaines? C'est-tu 2 mois? Mais là, ça commence à faire plusieurs mois. Normalement, là, pour ceux qui sont moins familiers avec le monde de la publicité puis des médias, la saison du Canadien commence la semaine prochaine. Je sais qu'elle commence pas la semaine prochaine, mais au sens des vendeurs de pub,
oui.
Elle commence la semaine prochaine, puis je dirais même, je pense qu'elle a déjà commencé. Donc, et pour avoir déjà rencontré ces gens-là, d'ailleurs, je les avais rencontrés au Centre Bell à l'époque, un des deux grands réseaux de sport m'avait invité à parler de ça, puis à rappeler pourquoi les droits télé, mais aussi la pub sur ces stations-là est si importante. Puis on l'a vu avec la dernière séquence du Canadien durant les séries. L'émotion est super élevée. L'attention est au maximum, au paroxysme. Tu ne peux pas changer de station. Tu regardes ça en gang. Tu as vu tous les gens dans le domaine de la réno, par exemple, annoncer. C'est assez remarquable parce que généralement, tu as une clause d'exclusivité. C'est-à-dire que le premier qui lève la main et qui fait un chèque un petit peu plus gros, il a la paix.
Ouais.
Il n'y a pas autres. Mais là, on était dans autre chose. Puis je suis sûr que TVA Sport a généré des profits. Là, je suis sûr. Alors, le produit, lui, il n'a pas perdu sa valeur. Dans un marché normal comme aux États-Unis, les droits du Canadien, depuis un mois, n'ont pas reculé, puis ils n'ont pas stagné, ils ont augmenté. Mais là, dans notre cas, ce qu'on s'aperçoit, compte tenu de l'annonce qui n'a pas été toujours faite, là, c'est anormal, OK, on va utiliser les bons mots, là, c'est que là, on a pogné le plafond de ce qu'on est capable de payer. Puis déjà, avec l'ancien plafond, qui était 2 fois plus bas, on avait de la misère à générer des profits. Alors, imaginez avec le nouveau plafond. Alors, c'est sûr que là, ils sont là-dedans. Je vous donne un exemple du plafond. Je vais vous le donner aux États-Unis. Fox, donc, avec son 46 millions, avait, il y a 10 ans, signé une entente un peu particulière avec la Coupe du monde en disant « On n'ira pas aux enchères, on vous fait l'offre tout de suite, puis ça serait gentil de l'accepter. » Et la Coupe du monde, curieusement, avait dit, savez-vous quoi, vous êtes avec nous autres quand c'était plus difficile, on accepte votre offre, 485 millions. Cette année, avec les codes d'écoute dont je vous parle, ça, c'est juste les matchs des Américains.
Ouais.
Ça inclut pas tous les autres matchs qui sont tous présentés, au-delà d'une centaine, plus d'une centaine. Donc, ils ont payé 485 millions. Les observateurs disent c'est la passe du cueillot de l'année. Parce que ça vaut juste cette année entre 1 et 1,5 milliard. Donc, quand ils vont repartir aux enchères, là, parce qu'à la fin de la Coupe du monde, quand c'est fini, tout le monde va se regarder en se disant le chèque de 485 millions des Américains est intéressant, mais on s'est fait avoir.
Ben oui.
Alors là, la
c'est
rumeur...
C'est sûr. Moins de 500 millions pour les droits. C'est 100, ah. 103, 104 ah. parties?
Oui, au-delà de. Puis avec des codes d'écoute à répétition de malades. Évidemment, on me dira, les Américains comme les Canadiens comme les Mexicains sont les hôtes de l'événement. Ça, c'est un avantage.
Mm-hmm.
Deux, c'est la durée de l'événement qui est beaucoup plus long. Le nombre d'équipes, 48 plutôt que 32. Alors ça fait en sorte que tout le monde, à un moment donné, qui est là, s'interpelle en disant « Ah, ça, c'est mon équipe! » Alors moi, j'ai des amis autour de moi, ils m'ont dit « Ah, moi, c'est la France, mon équipe! » Puis j'ai quelqu'un proche de moi, communément appelé un gendre. Lui, il est colombien. Lui, il est allé à Miami voir le match. Il est allé à Kansas City.
Ouais, oui.
Donc, c'est ce niveau-là de passion. Là. Il ne s'est pas posé la question. Il est allé. Et je recolle ça avec ta réflexion du début. Netflix va pas bien. Alors là, ils ont annoncé cette semaine qu'on aurait peut-être des vidéos courtes, live. L'autre annonce qui m'apparaît super importante, j'espère qu'il y a des gens qui ont pris des notes au Québec, c'est qu'ils commençaient à penser à ajouter des chaînes de télévision classiques. Ça veut dire, en d'autres mots, que tu irais sur Netflix puis tu aurais ton lien TVA. Or, c'est quoi qu'on reproche à toutes les stations québécoises?
Un peu comme Amazon.
C'est de ne pas être dans le coup. Ils sont pas dans le coup de la modernité. Ils sont pas là.
Ouais. Zéro.
Alors, Netflix dit, on pourrait peut-être offrir ça. Moi, je pense que ça va arriver. Alors ça s'appelle un agrégateur, là, dans le mot compliqué de l'industrie. Ça serait Roku, mettons, quelque chose comme ça.
Mm-hmm.
Puis l'autre chose, ils ont dit, savez-vous quoi, les droits de la Coupe du monde, ça nous intéresse. Et là, la rumeur, c'est qu'ils partiraient les enchères à 2 milliards.
Oh, tiens,
ça,
toi.
2 milliards, ça élimine 2 ou 3 personnes. On s'entend là-dessus.
Oui, ça élimine 2 ou 3 personnes. Les heures sont pas les mêmes. T'sais, ça va être plutôt en journée parce que c'est en Espagne, au Maroc et au Portugal, la prochaine Coupe du monde. Donc là aussi, c'est un enjeu qui peut être important. Mais moi, je veux revenir sur la quantité de plateformes. Tu sais, comme on va prendre la Coupe du monde, les droits de diffusion appartiennent à Bell au Canada. Bell on Crave, ça, c'est facile, là. Fait que tu l'aies sur la télé commune avec TSN ou RDS ou que tu l'aies avec Crave, tu sais, c'est la même compagnie. Mais là où ça devient compliqué, puis ça devient... où la concurrence est féroce, c'est que si tu t'en vas sur des plateformes, tu vas où? Il y a Netflix, il y a Amazon, il y a Flow. Il y a DAZN, qu'eux autres se spécialisent plus dans le sport.
Dans le sport.
Tu sais, il y a d'innombrables façons de faire. Puis là, le spectateur, lui, l'amateur, il est un peu perdu parce que, au final, faut-tu qu'il s'abonne à toutes ces plateformes-là pour pouvoir voir sa game, son équipe, jouer toute la saison? C'est là que ça devient un peu plus problématique. Là.
Oui, d'autant plus, rappelons-nous, on nous avait fait une promesse dans le temps. Avec le streaming, ça va coûter moins cher. Avec le streaming, ça va être plus simple. Avec le streaming, il va y avoir juste une plateforme. C'est sûr que pendant longtemps, Netflix était à peu près seul. Mm-hmm. Donc, il y avait 100% du marché. À un moment donné, je reviens là-dessus parce que c'est toujours une anecdote qui m'amuse. Il y a quelqu'un qui rentre chez Disney puis qui dit durant la réunion, comment ça, nous autres, qu'on n'a pas de plateforme de streaming puis Netflix en a une? Et la réponse d'une des personnes autour, c'est ben, parce qu'on prend nos films puis on les met sur Netflix puis ils nous envoient un chèque en échange. OK, donc tu es en train de donner un coup de main à la compétition, ils prennent nos films, ils les rendent disponibles pas cher.
Ouais.
Puis au nom de ça, on n'aura pas de plateforme de streaming. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé avec Disney. Et puis c'est là que le boss qui était dans la salle a dit, OK, ben savez-vous quoi? On va se créer une plateforme de streaming. Évidemment, c'est Disney+, qu'on connaît aujourd'hui. Puis ça explique aussi la multiplication des films de super-héros, pour ceux qui se posent la question. C'est que Disney a dit, ben il faut se créer une banque de films. On a des films pour enfants, ça, on en a en masse, mais si on veut rejoindre Luc puis Nick, là, je sais pas, moi, les films de Cendrillon, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Fait que là, on a dit, bon, ben on va faire des films de super-héros. On a fait 50, je pense, en 5 ans. Puis là, on le voit, là, récemment. Il y en a un qui est sorti il y a quelques semaines, là. C'est-tu Supergirl, là?
Oui, oui.
Et qui est un
Spider-Man sort la...
Oui, qui est un gigantesque flop. Là. C'est, ils ont brûlé des centaines de millions.
La télévision publique, pas la télévision publique, mais la télévision conventionnelle, au travers de tout ça, je trouve qu'ils sortent pas beaucoup du lot dans le sens que on voit NBC, Fox, ABC, CBS aux États-Unis présenter des événements sportifs en direct. Ici, appelons-le les télévisions groundées, là. T'sais, TVA, CTV, Radio-Canada, peu importe. On dirait qu'on ne veut pas toucher à ça. Par contre, quand je regarde la liste des codes d'écoute, je me rends compte que les Olympiques, le Canadien puis la Coupe du monde de soccer, c'est ce qui a dominé les codes d'écoute canadiennes depuis le début de la saison. Pourquoi est-ce que les réseaux de télé ici ils restent endormis? Ils font comme, regarde, non, on va vous présenter le vieux Spider-Man qui est sorti il y a 12 ans le samedi soir au lieu de bêter pour aller vous chercher à la game du Canadien.
Ouais, et la réponse courte, c'est parce que le vieux Spider-Man il y a 12 ans, il coûte pas cher. Puis il me permet de vendre la pub puis d'être à peu près kiff-kiff pas loin. Alors à peu près quelque chose comme ça. Puis on est là-dedans puisqu'il y a quelques semaines, si on était anglophone, on serait en train de pleurer parce que la soirée du hockey, Hockey Night in Canada, qui était présentée à la CBC, c'est fini. Et je rappelle une chose, puis je reviens toujours à ta question, pour te montrer comment c'est devenu trop cher. Ce que les gens ne savent pas ou ne savaient pas au moment de cette annonce-là, c'est que Rogers, qui possède les droits donc de ces matchs-là, même ceux du samedi, gentiment les offrait à la CBC. CBC payait
c'est
pas.
C'est un don?
Oui, absolument. Puis il disait, en échange, on va vendre la pub, puis là, on va être un petit peu égoïste. Mais sinon, on vous offre ça. Et à l'époque, c'était ce qu'on appelle un bon citoyen corporatif. Ça serait l'expression qu'on utiliserait en relations publiques. C'est si d'un coup, Rogers signe pour les matchs de la Ligue nationale au Canada, puis plus de soirée du hockey en anglais, ça va brasser fort. Fait que regarde ce qu'on fait. On va y aller doucement. On va durant le contrat, on va leur offrir les matchs du samedi, qui sont évidemment symboliquement d'une puissance. Comme la soirée du hockey, soit dit en passant en français. Là. C'était quelque chose. C'est une tradition. Là. Je vous en parle, puis j'ai le jingle dans la tête. Là.
Oui.
Je pourrais vous le chanter. Là. Exact. Alors ça... Blague à part, ça...
Oui.
Ça vaut des milliards.
Ben oui.
Juste ça. Alors, il n'y a pas d'autres jingles qu'on peut faire au Québec qui vont faire shaker le monde comme ça en passant. Là. Alors, c'est ça. Alors, la CBC, Rogers a signé le nouveau contrat. Je rappelle que le nouveau contrat, c'est le double de l'ancien contrat. Puis là, c'est sûr qu'à ce moment-là, Rogers est allé voir CBC puis a dit, on avait été gentils la dernière fois. Hein? Mais là, savez-vous quoi? Ça coûte tellement cher. Puis on est tellement dans une logique de prendre possession de toutes les propriétés sportives, parce que depuis quelques semaines aussi, c'est pour ça que l'entrevue arrive à point nommé. Mm-hmm. À Toronto, Rogers a mis la main sur tout ce qui restait. Il y avait un petit bout des Maple Leafs, il y avait un petit bout d'une autre patente, et ils ont 100% de ça. En fait, ce qui reste, qui n'est pas possédé par Rogers à Toronto, c'est l'équipe de basket.
Les Raptors.
De la WNBA. Ouais. La WNBA, les Raptors, okay. C'est à eux. Alors, ça veut dire... Et les Blue Jays, et le stade,
ouais, oui.
En fait, qui porte même leur nom, d'ailleurs. Alors, là-dessus, c'est sans appel. Donc, si tu veux faire du sport au Canada, vous me direz, Toronto, c'est pas le Canada.
Toronto, c'est le Canada.
Sur le plan médiatique, la réponse, c'est oui. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il reste encore 39 matchs du Canadien qui sont disponibles. Donc, c'est ça la preuve. Alors, Rogers est allé acheter tout ça là-bas. Ils ont fait même une entente à Toronto avec Bell pour la présentation des matchs des Maple Leafs, ce qui est assez particulier. Je vous dis ça parce qu'il y a plusieurs années, j'avais invité à l'Université d'Ottawa quelqu'un qui était l'un des responsables des relations publiques des Maple Leafs. Puis un étudiant avait eu l'idée de lui poser la question Cole, par excellence. C'est quoi la chose la plus difficile sur le plan des relations publiques quand on gère l'image des Maple Leafs? Et il avait donné une réponse. Je suis sûr qu'il ne l'aurait pas donnée dans n'importe quel autre contexte. Mais il a dit, je vous rappelle qu'on est en copropriété. À ce moment-là, ils étaient en copropriété.
Oui.
Et Bell et Rogers. Il dit, quand j'ai écrit le communiqué, j'ai écrit Bell ou Rogers en premier? Là, vous allez me dire, c'est du bébé Lala, ça.
Oui, non.
Ben, Bien, au pays des relations publiques, c'est pas du bébé lala. OK, tu viens d'annoncer le nouveau joueur. Je regarde ton fond d'écran, là, en arrière, pendant que tu parles, là, avec les logos. Le logo de Bell, est-tu plus gros que le logo de Rogers? Là, vous allez me dire, ah, c'est du bébé lala, ça. Mais au pays des relations publiques et des médias et du sport et du gros cash, parce qu'on parle de milliards depuis tantôt, là, on n'est pas dans une dizaine de millions, là. Ben c'est quelque chose d'important, ça. Alors, c'est Rogers qui a mis la mainmise là-dessus. Ça veut aussi dire, sur le plan publicitaire, ils ont un quasi-monopole sur s'il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui veut annoncer durant un match de sport sa marque, ben si vous excluez localement le Canadien, les 39 matchs dont on se parle depuis tantôt, ça veut dire que tout ce qui reste à peu près, sa patente, là, ça, sur le plateau canadien de l'alimentation sportive, c'est du Toronto. Et c'est là où ça devient étrange et ironique. C'est une équipe qui n'est pas regardable. Je parle Toronto. Ouais. En plus. Puis quand les gars s'en vont, ils deviennent très, très bons. On l'a dit durant la série. Avec un ou deux joueurs.
Ouais. Est-ce que ça se pourrait, Luc, à cause du prix, justement, qu'il n'y ait personne qui dise « Savez-vous quoi, les 39 matchs du Canadien qui restent, on les veut pas. » Ça pourrait-tu arriver qu'on décide tout simplement de ne pas les présenter?
Je pense que c'est impossible. C'est sûr qu'à la fin, on est au fond un peu comme quand on a lancé SpaceX récemment en bourse. C'est qu'il y a ce que tu veux, vendre tes actions à tel prix, puis il y a ce que le marché veut payer. Puis là, ça a pris plusieurs heures, parce que ça ne part pas automatiquement à 9h30 quand il sonne la cloche à New York. C'est OK, moi, c'est ça, je te donnerais. L'autre baisse un petit peu, l'autre monte un petit peu, l'autre baisse un petit peu, l'autre monte un petit peu. Puis là, on essaye de trouver le milieu. Et je rappelle que dans un marché normal, avec ce qui s'est passé avec le Canadien durant les séries, les droits n'ont pas descendu, les droits ont augmenté. Je répète, dans un marché normal, les droits n'ont pas reculé. Le montant du chèque qu'il faut faire n'a pas reculé ou n'a pas stagné. Il a augmenté. Mais je rappelle qu'on n'est pas dans un marché normal. On est dans un marché où il y a deux joueurs dans le domaine du sport au Québec pour une pointe de tarte, il faut le reconnaître, qui est minuscule. À l'échelle nord-américaine du sport professionnel, là, que ça fasse de la peine à certains ou pas, là, peu importe, on n'est pas grand-chose. Donc, c'est ce chiffre-là qu'on est en train de chercher. Là. Puis probablement que les réseaux de télévision nous diraient le chiffre d'avant, là, de l'ancien contrat, on pourrait vivre avec, mais tu ne peux pas me doubler ça. J'ai déjà de la misère à faire des profits avec l'ancien chiffre. Alors, c'est là qu'on est, là.
Puis encore faut-il que tu signes pour 10 ans puis tu n'as pas la garantie que le Canadien va faire partie du corridor pour les 10 prochaines années non plus.
Oui, puis c'est là où, si j'étais TVA Sports, je t'en maudis, c'est que j'ai été dans l'aventure pendant toutes ces années-là. Mm. Je m'aperçois avec les dernières séries comment c'est extraordinairement payant. Moi, je me suis amusé dans mon infolette à évaluer, mettons. J'ai pas les chiffres. J'ai pas les vrais chiffres, là. Je veux juste le dire précisément, là. Je veux que ça soit clair. Mais je me suis dit, comment ça vaut un 30 secondes, tu sais? Fait que j'ai pris les codes d'écoute historiquement de d'autres séries du Canadien. Après ça, ben, j'ai essayé de multiplier par deux parce que la cote d'écoute était, mettons, deux fois plus importante. Vous voyez un petit peu ce que j'ai fait, là.
Je vois très bien.
J'ai essayé de trouver une règle de trois, là. J'ai essayé de trouver à peu près comment ça pouvait valoir. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup, beaucoup hâte d'avoir les derniers chiffres de TVA Sport avec le Canadien en série. Je suis sûr qu'ils ont fait de l'argent. Alors là, je m'en mets dans la peau de TVA Sport. J'ai traversé le désert. Ça a été tough. J'ai perdu au-delà de 200 millions dans cette aventure-là depuis le début du contrat. Puis là, au moment où ils deviennent performants...
Le contrat est fini.
Il faut renégocier le contrat. Et merde que ça doit être ennuyant, ça.
Ah oui, c'est enfantinisant. Puis c'est pour ça que je comprends pas pourquoi TVA... Mais ça, c'est tu peux pas répondre à cette question-là. Là. Je comprendrai jamais pourquoi ils n'ont pas pitché ça sur l'antenne principale. Ils avaient le droit.
Oui. Puis tantôt, tu parlais pourquoi les réseaux, mettons, traditionnels ou classiques, là, les mainstream médias...
Il y a juste au Québec qui ne présentent pas de sport.
Oui, c'est ça. Et moi, j'étais sûr, je t'avoue, durant les séries, je me suis dit, mettons un match numéro 7. Où là, soudainement, ben tu peux dire, je te vends pas la pub, mettons,
ça va être correct.
30 000 piastres. Je t'avends 60 000. Mais encore une fois, je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait. Ils se sont dit, si on commence à faire ça, qu'est-ce qui va arriver avec nos abonnés de la station de sport, précisément? S'ils commencent à avoir le sentiment qu'on offre des produits par la banque gratos, en fait, gratos au sens de mon TVA, qui est chez nous, là, tu sais, qu'on écoute. Là. Alors, je comprends que... Je suis sûr que ça s'est discuté. Je suis certain que ça s'est discuté à l'interne. Et moi, c'est ça. Je pense qu'un match numéro 7, là, exceptionnellement, où tu dis... on va vendre la pub un petit peu plus cher, en fait, 2 puis 2,5 fois plus cher. Là. Je pense qu'ils ont pensé. Ceci étant dit... TVA Sport a généré des codes d'écoute excessivement intéressants durant les séries. Ça, on a eu des pointes à 2 millions. Je rappelle, pour ceux qui ont manqué le début de l'entrevue, qu'ESPN aux États-Unis, à 330 millions de personnes à peu près, a fait à peu près 2 millions. En d'autres mots, c'est pas parce qu'on n'est pas des maniaques de hockey que les problèmes dont on discute depuis tantôt existent. Là. C'est pas parce qu'on n'est pas des maniaques. On est les plus grands maniaques de hockey de la planète Terre. Il n'y a pas plus malade que nous autres.
Luc, on le
voit. Malheureusement, quand je regarde dans notre portefeuille, on est sans carte de crédit.
Puis on va finir là-dessus, Luc. On l'a vu pendant la finale olympique Canada-États-Unis. Là. Le pays t'a arrêté. Même chose, oui. Les trois premières parties du Canada également qui ont joué en Coupe du monde, là aussi, on a eu cette impression-là. C'est pas compliqué. Si vous voulez avoir l'attention du monde pour un public, pour une compagnie qui veut s'afficher, c'est le sport en direct. C'est le meilleur placement publicitaire, je me trompe-tu? Ou...
Oui, c'est ça qui reste. Puis la beauté du direct, c'est que tu peux pas le regarder en reprise. Puis t'es là, puis il y a tout le facteur émotion aussi. Alors, dans le cas du Canadien, là, l'émotivité... Ça vaut quelque chose. Je te donne un exemple de la Coupe du monde. Coca-Cola, évidemment, est un des commanditaires principaux. Oui. C'est grosso modo 14 à 15 % de tout le cash de la Coupe du monde en commandite. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Coca-Cola commandite systématiquement la fan zone. Alors, qu'est-ce que c'est la fan zone? C'est au moment du but qui donne la victoire à une équipe, tu vois l'image des fans qui sautent dans les airs. Alors, quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi ils achètent ça? Bien, parce qu'ils se sont aperçus qu'inconsciemment, s'ils étaient systématiquement associés à un moment de bonheur, d'ailleurs, pendant longtemps, le slogan de Coca-Cola était en lien avec ça, avec Coke, il y a de la joie, c'était ça le slogan. Ils se sont aperçus que ça donne une valeur supplémentaire à la marque et que ça, tu peux le biler. Si t'es tu retransmets les matchs, tu peux le biler à Coca-Cola, puis ils vont te le payer. Et c'est pour ça qu'une étude super bizarre qu'on fait en marketing, je te montre une bouteille de Coke, puis après ça, je te montre une bouteille de Pepsi. Tu vas me dire, ben, c'est des bouteilles de liqueur, qu'est-ce que ça va changer?
Ouais, Pepsi,
là, tu vérifies juste au sens neurologique la réaction du cerveau. Là, on est vraiment dans des choses bizarres, vous allez me dire. Puis on s'aperçoit que Coke génère une réaction que générera pas l'autre Pop Shop ou, je sais pas, Kick Cola. Générera pas. Alors ça, tu peux la vendre. Et ça, c'est juste le sport qui peut faire ça. Moi, du monde que j'ai vu là, chez nous là, sauter pour un but, puis très, très fort, puis crier fort. Puis on l'a vu sur X aussi, d'ailleurs. Si vous êtes sur X, vous le voyez ces temps-ci. Là, c'est la meilleure façon de suivre tout ça. Alors ça vaut quelque chose. Oui. Et c'est ça que Coke achète. Il achète la fan zone, la réaction des gens quand le but est marqué.
Un peu comme le Swish Nike également, c'est la même chose. C'est des logos qui, juste en le voyant, ça provoque quelque chose, ça provoque une émotion. C'est
oui, exactement. Puis la preuve que le logo est important, parce que j'entends souvent des gens dire « un logo, c'est un petit dessin ». La preuve que, en passant pour Nike, je rappelle toujours que la jeune fille qui a fait le logo de Nike a été payée quelques centaines de dollars à l'origine. Et que le boss, à un moment donné, s'est senti tellement coupable qu'à sa fête, il a donné une enveloppe. Puis dans l'enveloppe, le cadeau, c'était des actions de Nike. Même si Nike ne va pas super bien ces temps-ci, là, mais les actions qu'elle a eues à ce moment-là valent certainement des millions de dollars aujourd'hui. Mais je reviens là-dessus. Oui, c'est sur le plan de l'émotion. Puis d'ailleurs, dans le cas de Nike, ça a été construit avec Michael Jordan.
T'as-tu remarqué, juste parce qu'on parle de Nike... Oui. La Coupe du monde de soccer, parce qu'on est là-dedans, là, il reste 4 équipes. Puis c'est une histoire de film parce que c'est les 4 équipes qu'on voyait comme étant les 4 meilleures au début. C'est 4 hyper gros marchés de soccer, l'Espagne, la France, l'Angleterre et l'Argentine. As-tu remarqué que c'est Nike contre Adidas dans les 2?
Oui. Et c'est effectivement fascinant. Et là aussi, je me permets une autre petite anecdote. J'en aurai évidemment des centaines, mais ça sera une de mes dernières. Messi, à l'origine, était avec Nike. Alors, le plus gros, c'est le plus gros de la planète. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui ont des discussions puis des conversations éternelles sur qui est le meilleur. Mm-hmm. Moi, je pense que ça fait aucun doute, franchement, là, surtout cette Coupe du monde-ci. Là. Mais il était avec Nike. Et à un moment donné, son père, donc à Messi, qui gère sa carrière sur le plan pécunier puis sur le plan de la commandite et tout ça, porte-parole, est allé voir Nike puis a dit, on pourrait-tu avoir 2-3 chandails puis 3-4 jackets de Nike, là, parce qu'on... peu importe la raison, là. Et Nike n'a pas refusé. Donné de chandail, puis il a refusé. Alors, il est avec Adidas depuis. Et il est très, très fort. J'ai déjà vu des matchs en Argentine... il est sur la bouteille de Budweiser. Alors, son chiffre, là,
mais,
et son chandail, il est sur la bouteille de Budweiser. Donc, lui c'est quelque chose.
Mais lui, il est avec Adidas sur le temps, tandis que Mbappé est avec Adidas en club, puis avec Nike en sélection. Ça aussi, ça peut finir par... parce que Mbappé aussi, il va être à vendre à un moment donné.
Oui, puis l'autre chose... tu me lances dans toutes sortes de directions. Alors, il y a Nike, évidemment. Il y a Adidas, mais il y a le troisième qu'il ne faut pas oublier, qui est Puma.
Ouais.
Et Puma, le problème de Puma, c'est un peu le problème qu'on a au Québec, c'est qu'il n'y a pas de fric. Alors, qu'est-ce que Puma a fait il y a plusieurs années? Ils ont dit, on va se concentrer sur les équipes qui attirent peu Adidas et Nike. Puis c'est sûr que tôt ou tard, il y en a une qui va se faufiler. Et effectivement, c'est un bon raisonnement. Et effectivement, ils ont signé donc des équipes de deuxième ordre. Et si on se parle de tout ça actuellement, toi puis moi, je rappelle qu'on est en 1970, les Jeux de Mexico, les matchs présentés en direct et en couleur pour la première fois. Il y a un gars qui s'appelle Pelé, qui est dans la chambre des joueurs avant un match, puis qui entend les autres gars se vanter de leur droit de porte-parole de chaussures de sport. Puis qui va voir les gars de chaussures de sport, puis qui dit comment ça que moi, personne ne me signe? Et c'est là qu'il apprend qu'il y a une entente tacite entre Adidas et.
Sa fédération. Et
Puma, parce qu'oui, c'est toi, si on te signe, les droits vont augmenter tellement qu'éventuellement, il va falloir signer les autres avec un nouveau chèque. Fait que toi, t'es pas dans la liste.
Ouais.
Fait que là, il regarde le gars de Puma, parce qu'à l'époque, c'est Adidas et Puma. Nike n'est pas là. À l'époque, il n'est pas encore lancé dans le soccer. On est dans le jogging essentiellement pour Nike. Le gars de Puma dit, es-tu en train de me dire que tu accepterais peut-être un chèque moins élevé que je pensais? Et il dit, oui, fais-moi ton offre. Il accepte l'offre sur le champ. Puis au moment des quarts de finale, ça reste célèbre aujourd'hui, au moment du début du match, le kick du début du match, il fait signe à l'arbitre, attends un petit peu, on ne peut pas partir tout de suite. Il faut que j'attache mon soulier. Il se penche, puis évidemment, il attache son Puma. Il se relève, il dit, attends un peu, j'ai un deuxième soulier qui n'est pas attaché. Je ne sais pas ce qui se passe, je me suis présenté sur le terrain, j'ai oublié d'attacher mes souliers. Il s'est repenché, il a attaché son soulier. Et évidemment, dans les semaines qui ont suivi, les ventes de Puma ont explosé à l'échelle planétaire. Et c'est depuis ce temps-là que tout ce qu'on se raconte, en fait, à certains égards, depuis le début de l'entrevue, c'est de la faute. Appelez!
C'est tout est dans tout. Merci infiniment de nous avoir parlé, Luc, ce matin.
C'était un plaisir.
Bye-bye, Luc. Bye. Luc Dupont. J'avais prévu 15 minutes à faire avec Luc.
Toujours fort, tout le temps intéressant.
C'est pas ça que c'est passé, non, effectivement. Mais c'est captivant parce qu'il reste quand même une quarantaine de games du Canadien. Puis moi, ce que j'ai peur, c'est que ça devienne pareil comme ça l'était c'est devenu aux États-Unis, c'est-à-dire... Faut que tu t'abonnes à DAZN, à Flow.
Ça va être Amazon Prime,
peut-être. Faut que tu t'abonnes à Netflix. C'est là que ça peut devenir problématique. Mais il l'a dit, inquiétez-vous pas, toutes les games seront diffusées en français.
C'est sûr que quelqu'un va bêter là-dessus. Là.
Si c'est pas RDS ou TVA Sport, c'est quelqu'un qui va engager des descripteurs francophones pour un peu comme on a fait en MLS. Mais ils vont tous être présentés, Christy Games. C'est jeudi qu'on va connaître le calendrier.
OK.
Jeudi 16 juillet, le calendrier de la Ligue nationale qui va sortir. On va avoir, j'imagine, d'ici ce temps-là, on va avoir réponse à toutes nos questions. Mais c'est un gros, gros sujet à l'heure actuelle. Il se passe quoi avec les droits télé du Canadien en français? Tu sais, je pense que ce sera un recul inimaginable là, qu'on commence à voir juste la moitié des games à TV. C'était le même quand on était jeune.
C'était Radio-Canada puis CBC. La soirée du hockey le samedi soir, je me rappelle de ça.
Ben, TBA en présentait un le mercredi, TQS le jeudi. Ouais. Mais tu sais, t'avais 3 games par semaine, that's it. À un moment donné, il est arrivé RDS qui a mis du cash là-dedans, puis ça a créé une espèce de standard. Là. Toutes les games du Canadien sont supposées d'être à TV. Mais là, cette année, je vous le dis, la saison commence dans un mois. Il y a 40 games, on ne sait pas c'est qui est présent. Aucune idée. Pas d'argent. Va être un dossier à suivre, dossier intéressant. 8,58, on revient.
Morel.
Wow. Restez là. On revient dans pas long.
Live.
Radio X.